Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'importance de la prière. Nous arrivons à l'étude numéro 3, première partie, puisqu'il y en aura deux. Eh bien, aujourd'hui, nous avons à nouveau deux méditations, dont la première est intitulée « La main sur ma plaie » et la deuxième sera « Prière en secret ». Donc, première méditation, elle sera basée sur Saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Quand au cours de ces exercices, nous nous mettons en présence de Dieu, nous prenons douloureusement conscience de nos blessures et de nos plaies. Il n'existe personne dont la vie puisse en être exempt. Bien sûr, ces exercices ne sont pas en premier lieu une thérapie, mais une rencontre avec Dieu. Nous ne pouvons cependant rencontrer celui-ci sans y apporter tout ce que nous portons en nous. Si nous voulons prier, nous devons le faire avec notre vérité toute entière. Nous nous mettons en présence de Jésus-Christ, le Sauveur, et il entend bien guérir nos blessures et nos maladies. Aussi longtemps que nous négligeons de reconnaître nos maux, nous nous faisons du mal à nous-mêmes et nous refusons de nous ouvrir totalement à Dieu. En évitant d'avouer les blessures passées, nous nous condamnons soit à blesser les autres, soit à nous faire du tort à nous-mêmes. Je rencontre sans cesse des gens qui s'exposent inconsciemment à des situations où se répètent en quelque sorte leurs blessures d'enfance qui ont été vraiment mal guéries. La guérison du lépreux, telle que la raconte Saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45, cela nous invite à révéler toutes nos plaies, nos bobos, au Christ, pour qu'il puisse les toucher et les guérir. Ce malade est venu à lui en l'appelant à l'aide. Un lépreux, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut se tenir debout, qui ne peut s'accepter et qui se sent par là même en quelque sorte exclu par les autres. Il s'agit souvent là d'un cercle vicieux que nous sommes absolument incapables de briser nous-mêmes. Nous ne pouvons consentir à ce que nous sommes et nous ne percevons alors les mots et les gestes des autres que de façon négative. Si quelqu'un parle, c'est qu'il parle, en quelque sorte, il parle mal sur moi. Si quelqu'un rit, je pense qu'il rit de moi. Je ne vois partout que du refus de moi. Je me tiens de plus en plus à distance, tout comme devaient le faire les lépreux en Israël. Oui, ils devaient demeurer à l'écart. Et ils n'avaient le droit de s'approcher d'aucune personne bien portante. C'est ce que ressentent aujourd'hui beaucoup de gens. Et c'est à l'écart des autres qu'ils vivent leur peur, leur refus d'eux-mêmes, leur incapacité d'entrer en relation. Ils sont continuellement dans la crainte de peser sur les autres. Ils disent « Je suis vraiment impossible. On ne peut pas m'aimer. » Dans notre histoire, eh bien, notre lépreux, et il est tout à fait conscient de son malheur et de son désespoir. Il ose briser la barrière de sa solitude. Ainsi, il vient vers Jésus, tombe à ses pieds et déclare « Si tu le veux, tu peux faire que je devienne pur. » Saint Marc, chapitre 1, verset 40. Tout comme lui, nous devons nous aussi avouer notre impuissance. Nous ne pouvons nous guérir nous-mêmes. Nous ne pouvons même pas décider de nous accepter désormais nous-mêmes tels que nous sommes vraiment. Nous avons donc besoin de découvrir que quelqu'un nous accepte sans aucune condition. Le lépreux, il croit que Jésus peut le purifier, qu'il peut le libérer de tous les reproches qu'il se fait à lui-même, de son besoin de se déprécier et de se flageller lui-même, d'échapper à l'angoisse de se voir rejeté comme étant nul. Il sait aussi que toutes ses tentatives pour échapper au cercle vicieux du refus de soi-même et du rejet par les autres sont absolument vouées à l'échec. Chez nous aussi, le salut ne peut commencer que si nous nous rendons ainsi à Dieu, que si, comme le lépreux, nous tombons à genoux aux pieds de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et que nous crions du plus profond du cœur vers celui qui lui seul peut nous aider et nous guérir. La description de la guérison du lépreux comporte quatre temps, ceux qui peuvent aussi devenir pour nous les temps du salut. Jésus a donc pitié du malade. Il est saisi aux entrailles. Les entrailles sont le lieu des sentiments blessés. Jésus ne traite pas le malade de l'extérieur. Il le laisse l'envahir. Il ressent avec lui. Oui, il ressent avec moi. Il se laisse ainsi blesser par moi et dans et par ses plaies, il peut guérir les miennes. Puis ensuite Jésus étend la main. Il franchit l'abîme qui existe entre le lépreux et lui. Celui qui se refuse lui-même ne peut parfois pas admettre que quelqu'un tende la main vers lui. Et c'est pourquoi Jésus ne prend pas immédiatement la main du malade, mais lui tend lui-même la sienne. Il crée ainsi un pont et permet au malade de venir lentement à lui. Je connais beaucoup de gens qui n'osent pas venir à Jésus avec toutes les purulences qu'ils traînent. Il est consolant de savoir qu'il nous tend lui-même la main, qu'il nous appelle à faire le pas qui nous fera sortir de nous-mêmes. Alors Jésus touche le lépreux. Il n'est pas agréable d'aborter un tel malade. Oh là là, c'est parfois même répugnant. On se salit soi-même les mains. Jésus-Christ me touche précisément là où je suis nul et où je suis dégoûtant. Oui, là où il n'y a que purulence et œdème. Il me touche exactement à l'endroit que je voudrais pouvoir cacher aux autres et à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il m'est insupportable, parce que je ne puis même pas le regarder moi-même sans dégoût de moi-même. Dans la prière, je consens vraiment à ce que la main de Jésus vienne tout toucher, pour tout guérir, afin que je puisse moi-même oser le toucher lui-même avec amour et embrasser ainsi sa main. En posant sa main sur mes plaies, Jésus me dit, je le veux, sois purifié. Et disant ces mots, il fait couler en moi la force de son amour. Il ne s'agit pas là d'une parole en passant, mais bien de la force de son cœur. À travers elle, c'est toute son affection et son acceptation inconditionnelle de moi qui se répand en moi. Sa volonté absolue que j'existe, que je vive, que je sois pur et en bonne santé, que je devienne bon et clair comme au jour où Dieu me créa. Dans le récit, il est dit, au même moment, la lèpre disparut et l'homme redevint pur. Cela paraît trop beau pour être vrai. Chez nous, les choses ne vont pas si vite. Mais si nous jetons notre lèpre, tout ce qui nous dégoûte, par exemple notre nullité, si nous jetons tout cela dans une prière pleine d'amour du Christ, si nous laissons couler dans notre refus de nous-mêmes le flot de cet amour, il peut arriver que nous puissions d'un seul coup nous accepter inconditionnellement nous-mêmes. Je le découvre soudain et je peux être ce que je suis. Tout est bien maintenant. Au cours de ces exercices, nous devons dans notre prière porter au Christ toutes les plaies qui surgissent. Car tout ce que nous excluons de notre relation avec lui ne fera que entraver notre vitalité et bloquer notre relation à Dieu. Chers amis, je vous invite à revenir sans cesse exposer au Christ tout ce que vous ne pouvez supporter en vous. Tout ce que vous préféreriez cacher. Exercez-vous alors à le faire en priant du fond du cœur. Avouez votre incapacité à vous améliorer tout seul. Remettez-vous-en à la miséricorde de Jésus en vous laissant aller dans ses bras. Oui, confiez-vous à lui et pensez qu'il ressent les choses avec vous, qu'il tend le bras vers vous et vous touche, et que par cette simple parole, quand il dit « je veux », soit purifié, il injecte en vous maintenant un amour brûlant qui vous guérit. Vous pouvez penser que dans la Sainte Seine, il vient lui-même vous tendre la main, il vous touche et il chasse tout ce que vous vous refusez et refoulez en vous. Le pain que vous mangez, c'est l'incarnation de la déclaration divine qui dit « je le veux, sois purifié ». S'il veut que vous deveniez pur, vous devez vous aussi vouloir de toutes vos forces qu'il en soit ainsi en vous, parce que Jésus vous a touché. Que tout soit bon en vous, parce que le Christ consent à ce qui est en vous. Nous allons prier maintenant. Seigneur, je viens à toi avec tout ce que je ne peux souffrir en moi, avec toutes ces nullités que j'aimerais tellement cacher aux autres, avec la lèpre qui m'exclut de la communion humaine. Je te tends ma vérité telle que je suis et je t'en supplie, touche-moi de ta main pleine d'amour, guéris-moi afin que j'ose enfin entrer en contact avec tout ce qu'il y a en moi de sombre et de pénible, avec tout ce que j'ai refoulé et exclu de ma vie. Dis seulement un mot d'amour et de consentement à tout ce qu'il y a en moi pour que je puisse percevoir de tout cœur que en moi, tout est maintenant pur et bon en ta présence. Amen. Chers amis, j'ai bien retenu la leçon de la missionnaire amie Diva de Vera qui m'a dit « This is perhaps your opinion. » Oh, peut-être pas absolument, mais il est vrai que l'opinion d'autres chrétiens doivent être écoutées, surtout si elles sont basées sur la sainte parole de Dieu. Chers amis, notre deuxième méditation, c'est prier en secret. Et notre texte sera basé sur saint Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit comment prier. Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites pour faire leur prière. Ils aiment à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Il y a des musulmans qui, au milieu d'un supermarché ou sur un trottoir, se mettent à genoux ostensiblement pour prier devant tout le monde. Ça, c'est le contraire de ce que recommande la sainte parole de Dieu. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En disant cela, Jésus renvoie aux diverses formes de prière chez les Juifs. À certains moments, ils se rendaient au temple, mais pouvaient aussi se retirer chez eux. Pour beaucoup d'entre eux, même pour les membres de cercles pharisiens, il s'agissait là d'une règle méritoire. Pour bien se faire voir, on se tenait donc debout, on multipliait les prières en se prêtant ainsi à l'admiration des gens. Jésus se dresse contre de telles façons de faire, et dès lors que les prières ne visent qu'à nous mettre en valeur, elles ne sont plus que comédies. Jésus nous invite, bien au contraire, à nous retirer en un lieu isolé, là où personne ne nous verra. Il nous parle d'une chambre chez les campagnards, une espèce de hutte. Et avant de prier, il faut enfermer la porte. Donc pour Jésus, la prière est une affaire qui se passe uniquement entre Dieu et nous. Il n'est plus question de nous faire valoir devant les autres, même sous prétexte de les édifier. Nous devons renoncer à tout ce qui en elle nous donnerait un quelconque sentiment de supériorité, puisque je prie, je suis forcément meilleur que les autres et je peux les regarder de en haut. Or, c'est bien comme cela que les hypocrites comprennent la prière. Voyez-vous, pour eux, il ne s'agit pas de Dieu, mais il s'agit de leur prestige. Leur but, ce n'est pas de rencontrer Dieu, mais en se croyant supérieurs aux autres, en priant, ils ne font que tourner autour d'eux-mêmes. Notre prière doit donc se dérouler dans le secret. Cela ne signifie pas seulement que nous devons fuir les yeux des autres. Le secret désigne aussi la pièce intérieure dans laquelle nous devons nous retirer. Se retirer dans le secret, c'est rentrer dans la chambre de son cœur et y fermer la porte à tous les bruits du monde. Prier, c'est laisser entrer Dieu dans ma chambre afin de me retrouver seul à seul avec lui et de le laisser me transformer. La prière est donc quelque chose de très intime. Elle se passe au plus profond de notre âme. Et c'est là que nous rencontrons Dieu, car il se cache en notre cœur. Il existe en nous un espace de silence auquel le monde n'a pas accès et où même le tapage de nos propres pensées ne peut pénétrer. Et c'est là que Dieu habite en nous, et là où Dieu habite, toutes nos pensées doivent faire silence. Les reproches que nous nous faisons à nous-mêmes, nos sentiments de rancune, nos conflits avec les autres, nos insatisfactions, nos mécontentements, nos jalousies et nos calculs, tout en nous doit devenir tranquille. Nous sommes alors vraiment libérés du pouvoir de ce monde, du pouvoir des hommes, de leurs attentes, de leurs exigences, de leurs jugements et de leurs préjugés. Prier ne signifie pas seulement que nous nous entendons avec Dieu au sujet de notre vie, que nous lui demandons si celle-ci est correcte et comment l'amener. Selon les mots de Jésus, cela signifie plutôt que nous entrons dans l'espace intérieur du silence, que nous nous mettons à l'abri du bruit de ce monde pour nous retrouver seuls avec Dieu, pour nous retrouver tranquilles avec lui qui habite dans cet espace secret. Un des écrivains les plus importants du IVe siècle nous parle du lieu divin où en nous brille la véritable lumière grâce à laquelle nous découvrons notre véritable identité, l'image intacte de notre être tel que Dieu l'a tracé, et il qualifie cet espace intérieur de revue de la paix. Le silence y est absolument total. Là cessent tous les soubresauts qui agitent si souvent notre âme, ceux de nos besoins, de nos passions, de nos émotions, de nos pensées souvent si contradictoires, je répète, de nos pensées qui sont souvent tellement contradictoires. Et c'est là notre cœur trouvera le repos, car là règne, c'est là que règne la paix de Dieu. Oui, c'est en même temps le lieu d'où sont exclues toutes les disputes humaines. L'accès en est barré à toute malveillance, à tout refus. Là, peu importe ce que les autres pensent et disent de nous, nous sommes seuls avec Dieu. C'est là que nous avons notre patrie, parce que Dieu lui-même, le mystère par excellence, y repose. Jésus nous dit que Dieu, notre Père, qui habite en nous par le Saint-Esprit, voit aussi ce qui est enfoui en nous. Il regarde dans notre cœur. Il connaît tous les recoins de notre âme, ceux où nous aimons nous faufiler pour nous cacher de lui et même des hommes. Il perce donc les motifs égoïstes de nos prières. Rien n'échappe à ses yeux. Il ne nous reste finalement qu'à nous présenter à lui dans une nudité totale, en le laissant voir tout ce qu'il y a en moi. Je me découvre vraiment libre. Seule la vérité nous rend libres, nous dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Si je cesse de cacher quelque chose à Dieu, je cesse par là même, de me détester et de me condamner. Je sais que tout ce qui est sombre et mauvais, ce qui me rend amer et m'empoisonne, les replis les plus profonds de mon cœur sont aussi habités par l'amour de Dieu. Je n'ai donc plus besoin de me mettre à l'abri de moi-même. Je puis occuper la totalité de ma maison, de mon appartement, car chaque chambre, même la cave la plus obscure, est une demeure divine. Dieu l'éclaire de la chaude lumière de son amour. Nombreux sont donc ceux qui n'occupent que la moitié de leur appartement. Mais les espaces inoccupés, contaminent par leur moisissure à peu près tout l'immeuble. Ce que nous cachons à nous-mêmes, à Dieu ou aux autres, tue en quelque sorte notre vitalité. L'histoire de la spiritualité recourt aux images les plus diverses pour décrire les chambres intérieures où nous devons nous retirer pour prier. Les pères de l'Église parlent du Saint des Saints. Ils font ainsi allusion au temple avec ses différents cours et portiques dont certains n'étaient accessibles que aux hommes, d'autres aux femmes et d'autres encore aux non-croyants. Mais au Saint des Saints, seul le grand prêtre pouvait y accéder. Dans le Saint des Saints de notre cœur, eh bien oui, seul le Christ entre pour prier le Père en nous par le Saint-Esprit et avec nous. Cet espace est fermé aux païens, autrement dit, à tous les soucis que ici souvent nous accablent ceux qui sont liés à notre travail, à notre famille, à nos amis ou tout simplement à nous-mêmes, à notre santé ou à notre perfection, à nos susceptibilités et à nos peurs. Et dans ce Saint des Saints où je viens faire ma prière, je viens donc me sanctifier, guérir, retrouver le contact avec l'éclat originel que Dieu me prêtait, avec l'indestructible beauté qu'il m'a conférée. la prière intérieure a lieu dans la pièce la plus profonde du château de notre âme, où nous nous sommes retirés avec le seul ami auquel nous voulons parler, Jésus, parce que nous sommes certains qu'il nous aime. La cellule intérieure, c'est le ciel, et c'est là que le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Là, notre vie s'élargit. Là, nous percevons que nous ne sommes pas seulement créatures terrestres, mais aussi créatures célestes. Là, nous avons part à la gloire du ciel. Nous participons à l'hymne de louange éternelle qui y retentit. Je m'y trouve enveloppé par la présence aimante et salvatrice de celui qui vient soigner mes plaies. Son amour se glisse dans mes ressentiments. Son amour panse mes blessures, calme mes jalousies et mes sentiments d'amertume, cure les recoins empoisonnés de toute ma vie et de mon âme, attendrit ce qui est durci, remet au jour ce qui est refoulé et qui est coupé de la vie. Et dans l'espace du silence, je redeviens totalement neuf. Autre image utilisée à propos de cet espace intérieur de la prière, c'est celle de la fiancée du Cantique des Cantiques. C'est un jardin fermé, c'est une source scellée, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. En nous jaillit donc la source de l'Esprit Saint, celle de l'amour divin. Mais bien souvent, cette source est bouchée par un amas de gravats, nos soucis, nos ruminations, qui se sont peu à peu accumulés et forment un barrage. Dans la prière, nous nous débarrassons de toute cette sédimentation et nous redonnons libre cours à la source dont l'eau pure vient baigner nos profondeurs. Nous pouvons alors puiser à cette source d'amour, à l'amour même de Dieu, celui dont le Cantique des Cantiques déclare « Ton amour est plus doux que le vin », chapitre 1, verset 2. Dans la prière, c'est à cette source de l'amour divin que je m'abreuve afin que celui-ci puisse couler en moi et chez tous ceux que je rencontre quotidiennement. Autre image encore, la flamme. C'est à elle que recourt encore le Cantique des Cantiques pour décrire l'amour. Ses traits sont des traits de feu, des flammes puissantes. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Saint Luc parle du feu du Saint-Esprit. En nous, le feu du Saint-Esprit, c'est tout simplement l'amour divin. Nous n'en sommes pas consumés, mais nous sommes vivifiés. Il n'a pas pour retomber les cendres d'espérance sans lendemain, mais il y a là la braise ardente d'une charité durable. Prier signifie donc ranimer en nous l'ardeur du feu divin qui vient nous réchauffer et nous revivifier afin que nous puissions à notre tour répandre cette chaleur sur les autres. Prier veut dire que je protège en moi le feu afin que de ce feu de l'amour divin puisse jaillir une étincelle sur tous ceux auxquels j'ai affaire. Et c'est pourquoi, en guise d'exercice, je vous propose de vous asseoir en silence devant Dieu. Entrez dans la chambre de votre cœur et efforcez-vous de fermer la porte. Donnez-vous une demi-heure pour vous retrouver simplement seul avec Dieu. Puis prenez l'image qui vous convient le mieux, celle de la source intérieure, de la flamme qui brûle en vous, du Saint des Saints où vous trouvez le salut de la cellule intérieure où vous êtes assis seul avec Dieu et où vous pouvez parler avec lui comme avec un ami. Restez ainsi assis une demi-heure. Au début, vous constaterez que les portes de votre maison ferment mal, que en dépit de vos efforts, le bruit de vos pensées fait sans cesse irruption. Mais ne vous en inquiétez pas. Regardez ces pensées et laissez-les disparaître comme un nuage. Et c'est alors que vous ferez l'expérience à laquelle Jésus entend nous introduire par son école de la prière, être seul avec Dieu le Père, être uni à celui qui aime mon âme, être en Dieu, toi en moi, et moi en toi. Peut-être pourrez-vous alors dire, à celui qui a Dieu, rien ne manque, car Dieu suffit absolument. Nous allons donc prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, oui, tu nous as enseigné comment prier. À travers ces exercices, apprends-moi à le faire de telle sorte que je puisse rencontrer Dieu au plus intime de mon cœur. Fais-moi atteindre l'espace le plus intérieur de mon être, celui où tu habites et où je me sentirai entièrement libre et sauf, celui où tu me reconduis à moi-même, à mon être véritable, et là où tu habites en moi, fais-moi découvrir que celui qui se confie en Jésus-Christ, rien ne manquera dans sa vie. Amen. Amen. Et maintenant, je veux essayer de vous mettre quelques chants que j'ai enregistrés en 1962, donc il y a très très longtemps, et en ce temps-là, il n'existait pas de CD. Il n'existait que des bandes magnétiques telles que le Revox et autres, et des cassettes. Alors, c'est pas tellement parfait, mais j'espère que je pourrai, malgré tout, vous faire entendre quelques chants de ce temps-là. À bientôt donc, mes chers amis, à demain matin, pour la suite de cette longue série. J'en ai déjà fait, je crois, environ 60 sur la prière autrefois, que vous pouvez trouver sur www.biblexplique.ch. À bientôt, à demain matin, Dieu voulant. Au revoir, mes très chers amis.
De la grâce, chantons à Dieu. te confie.